cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 23 février 95.
Sûr du possible, parce que pose la question parce que je crois qu'il faut se la poser en philosophe. Je ne vais pas me mettre à écrire un livre pour tout le monde là-dessus. En philosophe, il faut montrer que la création de l'âme créée par Dieu, c'est difficile de préciser à quel moment exactement. Étant donné que le principe que donne Thomas d'Aquin reste vrai, qu'il y a une harmonie entre la matière et la forme. Et saint Thomas reprend souvent cet argument. Il le reprend, je suis alerté devant ça, alors il le reprend encore lorsqu'il s'agit de voir pour le Christ le point de vue de la création de son âme. Mais c'est tout à fait différent, puisque son âme subsiste dans le Verbe. Et donc, il y a l'aspect miraculeux de la conception du Christ, de la nature humaine de Jésus, et que cette nature, parce qu'elle est unie au Verbe, acquiert tout de suite une noblesse unique. Ce serait intéressant aussi d'y réfléchir. Et pour Marie. Mais pour Marie, c'est plus facile. Puisque de fait, on n'a jamais considéré que le mystère de l'Immaculée Conception modifiait quelque chose à l'ordre, au développement physique. La grâce présuppose la nature. Pour le Christ, le mystère de l'incarnation, le mystère du Verbe est antérieur à tout et enveloppe tout. Et donc fait qu'on est en face d'un mystère unique du développement et de la formation de la nature humaine dans le mystère du Christ. Mais c'est intéressant à y réfléchir aussi. Alors ceux qui s'intéressent peuvent regarder ce que dit Thomas d'Aquin là-dessus. Encore une fois, sur ces questions-là, Thomas d'Aquin est un moment théologique intéressant. Il ne faut pas le suivre aveuglement. Il faut nous reposer la question aujourd'hui. Et je crois qu'on doit se la reposer avec une acuité et une pénétration d'autant plus grande qu'on a une connaissance plus nette de l'aspect de la formation génétique de l'embryon, et que on est en présence de cette multitude d'avortements. Mais comprenez bien que même si l'âme est créée à la 7e semaine, au point de vue faute, c'est la même chose, puisque la faute est dans l'intention, premièrement. C'est donc supprimer un être humain, puisque c'est un être humain qui, normalement, serait un être humain. Donc dans l'intention, c'est la suppression d'un être humain. Alors, on peut très bien dire, alors ça fait partie, vous voyez, des consciences mal formées. La conscience mal formée fait qu'il n'y a pas de faute pour certains qui peuvent très bien ne pas comprendre. Mais on doit chercher à donner les explications les plus nettes et les plus savons que cette alliance de Dieu avec l'homme par la procréation est une chose profonde, puisque coopérer avec le Créateur pour un être nouveau, un homme nouveau, et que cet homme est racheté par le Christ et donc est aimé d'un amour très spécial de Jésus, ça fait que cette alliance avec Dieu prend toute sa dimension dans la lumière de la croix. Mais ceci, c'est pour le chrétien. Quelle est la dimension pour l'âme religieuse, pour l'homme religieux? Et quelle est la dimension pour celui qui n'accepte pas l'existence de Dieu, donc qui n'accepte pas non plus l'existence de l'âme spirituelle créée par Dieu, puisque pour eux, Dieu n'existe pas? Alors il y a une faute contre les hommes. Dans quelle mesure pouvons-nous affirmer ça? Et comment l'affirmer? Puisque ceux qui engendrent, engendrent au nom de l'humanité, pour sauver l'espèce humaine, pour la survie de l'espèce humaine. Il y a quelque chose dans la procréation qui échappe à l'individu et à la personne. J'allais dire doublement, ou du côté purement humain, ou du côté religieux et chrétien, puisque c'est une coopération avec Dieu. Dans ce sens-là, ça échappe. C'est quelque chose qui va au-delà de notre conscience, puisque l'acte commence par la volonté humaine et s'achève par la volonté de Dieu, du Créateur. Et s'achève par la volonté du Christ crucifié, par la grâce et par la grâce sanctifiante. Alors, je remercie ceux qui ont fait ce travail, c'est très bien, qu'ils puissent taper et le communiquer à tous, parce que je crois que ça intéresse tout le monde. Alors, nous allons continuer cette petite recherche. Je ne vais pas insister trop, puisque c'est plutôt vous faire réfléchir. Et là, j'aimerais beaucoup que la petite équipe qui s'est formée continue de réfléchir aussi là-dessus. Étant donné que il faut des psychologues, il faut des éducateurs, il faut un philosophe. Et si on voulait, et il faut le faire, je crois aujourd'hui, comprendre, après avoir analysé ce qu'est la vie de l'homme, après avoir analysé ces trois niveaux de vie, la vie végétative, la vie passionnelle et la vie intellectuelle ou spirituelle, trois niveaux, après avoir vu leur diversité et leur harmonie, il faut maintenant voir comment l'homme arrive à la formation de sa personne. C'est la formation de la personne humaine qui m'intéresse, puisque ce n'est pas après cette formation, oui, on continue de la former jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Et on progresse tout le temps. Tant qu'on a conscience, on progresse. Tant qu'on veut progresser, on progresse dans sa personne humaine. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir le comment de la croissance. Puisque la personne humaine, quand même, normalement, est formée. Je ne dis pas là, j'en ai un citoyen. Je crois que c'est plus tard. On peut aller jusque 30 ans dans cette formation. Et après, on a le souci de s'éduquer soi-même et de progresser soi-même. Le progrès du côté de l'intelligence, le progrès du côté de la volonté, le progrès du côté de l'art, de l'efficacité. Et ça fait partie de la personne humaine, c'est sûr. Alors c'est le progrès du point de vue familial. Créer une famille, entrer dans une famille religieuse. Il ne faut pas croire que l'entrée dans une famille religieuse fait un arrêt à la croissance de la personne. Heureusement que c'est la personne, au contraire, qui peut à ce moment-là se développer d'une façon étonnante. Le noviciat est un moment très important pour la formation de la personne humaine par le point de vue chrétien, par le point de vue religieux. Alors, on peut fixer quelques étapes à partir de la naissance, puisque le reste, on l'a vu, l'aspect antérieur à la naissance, l'aspect premier de la naissance, où l'enfant acquiert son autonomie biologique, en partie. Mais quand même, il l'acquiert. Il respire, il mange. Et cette acquisition se fait à travers des luttes, puisqu'on l'éduque à manger à tel moment, et pas n'importe quand. On l'éduque à être propre. Que cette première période est la même pour l'homme que pour l'animal. Ce qui a été dit par un illustre professeur de biologie qui a peut-être élevé des lapins ou des petits chats, il prend le chat et dit que on éduque le chat à être propre, on éduque l'enfant à être propre, c'est la même chose. Il a dit ça dans les rencontres internationales à Genève. Mais il ne suffit pas d'être à Genève pour être intelligent. Dans les rencontres internationales, il faut réfléchir que l'éducation est humaine dès le point de départ. Parce qu'il y a une âme spirituelle. Alors, celui qui ne croit pas en cette âme donne une éducation humaine en vue de l'amour d'amitié. Que l'homme puisse avoir des amis, que l'homme puisse aimer quelqu'un. Alors, c'est encore humain, parce que je n'éduque pas le chat à avoir une petite chatte. Non, pas la peine, c'est tout à fait inutile de l'éduquer là-dessus. L'instinct est suffisamment fort. Je l'éduque simplement à être propre et à manger à telle heure ou telle autre heure. Alors je laisse tomber ce point de vue du dressage de l'animal et l'éducation de l'enfant. Éveiller de plus en plus l'enfant à la présence ça c'est difficile, mais on fait comme si l'enfant a conscience. Parce que je crois qu'il a beaucoup plus conscience qu'on ne pense. Et il est très dépendant de son milieu et s'éveille progressivement son intelligence pratique. Alors je vous signalais l'éveil de l'enfant à répéter certaines choses. Papa, maman. Apprendre un langage, apprendre à marcher. Et avant tout cela, le sourire qui indique la réponse à une présence. Pour cette éducation est faite pour que l'enfant réponde à une présence. Et la qualité de la mère et du père, c'est d'être très présent à l'enfant. Être tout entier à lui pour éveiller une présence. Vous voyez, éveiller la présence, c'est éveiller l'affectivité spirituelle. Et c'est éveiller l'intelligence en vue de cette affectivité spirituelle. Je crois qu'au point de vue philosophique, c'est la première étape. La présence, c'est très curieux, comme c'est grand, comme c'est merveilleux pour la mère. Toutes les mères le diront, ça. De voir ce petit être qui s'éveille, et chaque jour, qui a vraiment, vous voyez, comme un face-à-face qui se fait. Par le point de vue de l'amour, par le point de vue de la confiance, par l'éveil aussi de la sensibilité, de l'imagination et du dépassement de certaines distractions. Parce qu'il y a vraiment un dépassement qu'on fait faire à l'enfant. Et l'éduquer à manger à des heures précises réclame un dépassement. C'est pas du tout conventionnel. Hein. C'est conventionnel en partie. Pourquoi on mange entre midi et 2 heures? Pourquoi? À cause du soleil. Mais quand il n'y en a pas. Pourquoi on se couche à telle heure? Vous voyez, il y a un rythme familial et qui varie selon les pays, ça c'est sûr, et qui a une répercussion sur l'enfant et qui oblige l'enfant de s'adapter à un tout, la famille, s'adapter à quelque chose qui est plus grand que lui, qui est plus fort que lui, qu'il dépasse. Donc, l'immanence et la transcendance. C'est curieux, mais c'est tout de suite ça. La première éducation, c'est ça. La nourriture, c'est l'immanence. Dire un petit bonjour, c'est l'immanence. Être éveillé à la présence de quelqu'un, c'est déjà une certaine transcendance. S'occuper de l'autre, être attentif à l'autre, plus qu'à nous-mêmes, plus qu'à soi-même. Alors ça, c'est la toute première éducation. Même si les parents n'ont qu'un son, aucune intention là-dessus, on voit cela. Et on voit dans cette première éducation le caractère indispensable de la mère. Et ça, il faut le dire, le redire. Je vous ai donné ces exemples déjà, parce que c'est récent. Dans l'État d'Israël, on a voulu appliquer un socialisme absolu, au début, dans les kibbutz religieux. Et on a vu que personne au éveiller l'enfant. Elle est celle qui est le plus en bonne naturalité avec l'enfant. Et le père aussi, mais d'une autre manière. Suaviter et fortidaire. Tous les deux prennent quelque chose de l'Esprit Saint. Alors, suaviter, c'est la mère normalement. Quand la mère n'a aucune suavité, le père est obligé de remplacer. Mais il le fait toujours mal. Normalement, il ne le fait pas très bien. Il vaut mieux laisser la mère être suavitaire. Et l'enfant, le père est plus fortitaire. Mais voyez, c'est curieux. C'est l'immanence et la transcendance qui apparaissent tout de suite dans cette première éducation. L'assimilation. Au point de vue végétative, au point de vue vie sensible, l'assimilation de son milieu, papa, maman, et la nourriture. Et le sourire est un petit peu le centre de tout ce milieu familial. Dans les familles nombreuses, ça ne dure pas trop longtemps parce qu'il y en a un autre qui prendra la place. Mais autrement, c'est lui le centre. Et puis la transcendance, si les parents sont chrétiens, ça se fait tout de suite par la prière. C'est pour ça que l'éducation chrétienne apporte quelque chose de très très grand. La prière, très vite. La transcendance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, elle peut la prière et aussi le regard de ceux que l'enfant ne voit pas tout le temps. C'est quand même très important ça. Il n'y a que ceux qu'on voit tout le temps. Il y a un petit ronron familial. D'immanence. Grâce aux étrangers. Aux amis qui passent. Il y a un dépassement. Ça, c'est important à voir les liens entre l'imagination et la vie végétative. Et l'imagination et notre vie sensible. C'est vrai, l'imagination est à la fois une immanence très forte. Alors quand se fait l'éveil de l'imaginaire? Pas commode à voir. Je crois très vite. Mais il y a quand même un éveil. aux intériorités de l'imaginaire. Et donc une fausse autonomie. Et une fausse immanence. Mais c'est une certaine immanence. C'est l'immanence du psychisme. Le psychisme naît avec l'imaginaire et se perfectionne avec l'imaginaire. L'affectivité naissant est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Vous voyez, je crois que le sourire est un appel vers un dépassement. Un appel, pas plus. C'est très affectif. C'est parce que c'est très affectif que ça peut copier l'image. On a besoin affectivement de copier. Et pour l'imagine, pour l'affectivité, la copie suit. Mais il faut la copie. Il faut qu'il y ait une répétition de quelque chose. Donc on voit que cette première phase est très complexe, très importante en fonction de la fragilité de l'âme humaine, en fonction de sa dépendance extrême vis-à-vis de la mère et vis-à-vis du père, mais surtout vis-à-vis de la mère. Dépendance extrême. Alors qui dit dépendance extrême dit très grande influence. Quand l'enfant commence à marcher, son univers devient plus complexe. Parce que son milieu d'autonomie augmente. Pour tout. C'est un enfant curieux qui commence à marcher, c'est terrible. La mère court toujours après pour être sûr qu'il ne fait pas de bêtises. Parce qu'il aime, c'est la curiosité. Alors il faut lui laisser suffisamment de liberté pour augmenter sa curiosité. Mais en même temps le surveiller suffisamment pour que la curiosité ne le conduise pas dans des situations. Il veut tout manger, tout goûter, tout toucher. C'est extraordinaire de voir ça. Alors à ce moment-là, c'est bien la cogitative, c'est sûr. Mais il y a l'intelligence, c'est pas uniquement la cogitative. Et les pourquoi. Et qui voit quelque chose de nouveau. Et il veut le voir, il veut le toucher. Il n'a pas encore fait le discernement des bonnes bêtes et des mauvaises bêtes. Un enfant qui veut caresser une araignée, c'est pas drôle à voir. Parce que elle rend la caresse à sa manière. Sans les mœurs de l'araignée. Et quand on fouille, alors c'est, par ici ça n'existe pas beaucoup, mais je me souviens. Aux États-Unis, dans un range, on me montrait, vous coucherez là, puis on arrivait, on monte les araignées. Les araignées sont mortelles. Ils ont le même vide. C'est ça. Ça a peut-être froid dans le dos, mais on ne bouge pas, n'est-ce pas? Vous êtes héroïque devant la mort, donc. Mais l'enfant est tout le temps en péril. C'est extraordinaire. Alors il faut attendre la grand-mère. La mère a le courage de supporter les périls et les curiosités. Mais la grand-mère, plus du tout. Alors il faut qu'elle surveille ça. Cet âge de l'enfant qui progresse dans un milieu plus vaste, avec toute son imagination, ce qu'on a remarqué, hein. Les enfants qui aiment de dessiner, c'est parti d'une mode, ça. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, on aime faire les enfants. Tu vas faire des dessins. Et alors, les problèmes, quand on fait une conférence sérieuse, ils ont raison, l'enfant est à côté de la mère, il fait des dessins. Alors il dessine le prédicateur, il dessine le conférencier. Et à la fin de la conférence, on a le petit cadeau. C'est très touchant, on dirait. C'est tout ça très beau. Ouais, on cultive l'imagination très fort aujourd'hui. C'est très bon. Mais pas trop. Parce que l'enfant risque après de ne rester qu'à l'image. On a besoin de chair, on a besoin d'image, on a besoin. C'est très vrai, on en a besoin. Mais il faut dépasser cela. Alors, quand se fait ce dépassement, l'école maternelle entre deux, l'école maternelle est sûrement quelque chose qui implique un nouveau milieu. Vous voyez, on pourrait donner ces changements par les changements de milieu. L'amplitude du milieu dans lequel l'enfant peut se développer. L'amplitude du milieu augmente les personnages avec lesquels il peut se trouver. Il y a sûrement jusqu'à l'éveil de la prudence. Quand l'enfant sait très bien qu'il désobéit, c'est aussi quelque chose de très important, ça. Quand l'enfant commence à désobéir, quand l'enfant commence à mentir, quand l'enfant commence pour lui-même à vouloir faire des expériences qu'il sait défendues. Oui. Alors tout l'âge de la négation. Alors on dira, les psychologues aiment de dire, je crois que ça a 3 ans, 4 ans, que l'enfant commence à refuser. Quand on arrive brusquement, qu'ils ne connaissent pas, ils se cachent, ils s'en vont. Alors que le petit enfant, non. Il n'aime pas de passer des bras de sa mère au bras d'un étranger. Alors il se met à crier, il a raison. Il montre que sa cogitative est bonne et que les bras maternels sont ceux qui lui conviennent et que les bras des autres ne conviennent pas. Alors à ce moment-là, il refuse ça. Il y a une négation qui naît. Alors ça, c'est philosophiquement, c'est aussi très intéressant de voir à quel âge la négation affectivement et intellectuellement va naître. Je crois que la négation est d'abord affective. Et elle est très vite, la négation affective. Quand la mère qui porte l'enfant le met dans d'autres bras, elle fait ça pour que l'enfant puisse connaître d'autres personnes. L'enfant n'a pas envie du tout. Il rejette ça. Je crois que c'est les premières négations affectives qui me semblent très importantes, étant donné l'importance de la négation aujourd'hui au point de vue de la formation intellectuelle. Puis il y a les négations qui ne sont plus affectives, qui sont du côté du langage, du côté de la pensée. Parce que c'est très vrai que d'une certaine manière, la négation va engendrer l'affirmation. Du côté génétique, c'est comme ça que ça se passe. Du côté génétique, il y a la première phase de négation avant qu'apparaisse la vanne. C'est pas entièrement vrai puisque la première phase de l'enfant est affirmée.